Nous voulons continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et donc, dimanche dernier, nous avons commencé avec le premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous avions vu toutes les bénédictions spirituelles qu'il a préparées sans que nous fassions quoi que ce soit. C'est lui qui l'a prévu, c'est lui qui l'a pourvu. Il a tout mis en place. Et puis, les derniers versets que nous avions lus, eh bien, il nous dit que vous avez entendu l'évangile, la vérité de votre salut, vous avez cru. Et quand vous avez cru, vous avez reçu la vie et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de notre de ce qu'il a encore pour nous et de toutes ces bénédictions spirituelles qui nous réservent. Je dis en passant que certains voudraient nous dire que l'élection qui est faite avant la fondation du monde déterminerait qui sont sauvés. Eh bien, si elle déterminait ceux qui sont sauvés, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de sceller? Il scelle parce qu'il veut marquer son appartenance à Dieu, et il nous dit que c'est un gage, c'est en attendant que le reste arrive. Donc Dieu, ce qu'il faut maintenant pour nous, et ce que le message pour chacun d'entre nous, ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, comme il a été dit dans l'une des prières, c'est d'entendre la parole de Dieu, de la croire, c'est-à-dire de faire confiance, et puis ensuite... lui fait son œuvre, parce que l'Esprit de Dieu à ce moment-là peut commencer cette œuvre de régénération, de transformation, et nous ne voulons pas que cette œuvre se termine, parce que voilà, je lis le début du verset 15, donc nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, donc Éphésiens 1 verset 15, et vous remarquez que avec toutes les belles choses qu'il a dit déjà, eh bien, il dit, mais on ne s'arrête pas là. Vous savez, dans la vie chrétienne, il ne faut jamais être au point où on est content, dire, moi, je suis content avec mon niveau, là, c'est bon. Celui qui pense ça, eh bien, n'a rien compris. L'apôtre Paul va dire, au verset 15, disait, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints, il dit, j'ai entendu que vous avez la foi. J'ai entendu que vous avez un amour pour tous les saints. C'est extraordinaire. Il dit, c'est bon, restez là, c'est bon. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je prie pour que ça aille plus loin. Il dit, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On lit ça et puis on dit « Waouh !» Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que c'est pas mal, que c'est très bien, et c'est vrai. Et l'apôtre Paul, qui a eu part à l'implantation de cette œuvre, lui et son équipe, ils ont implanté cette œuvre-là à Éphèse, dans la difficulté, dans l'épreuve, et tout cela, mais... Et puis là, 10 ans plus tard, il est dans une prison, et puis il leur écrit une lettre, et puis il dit, moi, j'entends parler de vous, j'entends que vous avez... vous avez cru, j'ai entendu parler de votre foi, donc c'est pas seulement si vous, pas vous, mais vous avez une réputation. vous êtes connus pour votre foi. Et dit aussi, en plus, pour votre charité, pour tous les saints. Le premier trait qui transparaît dans ce rassemblement de croyants en Christ est leur foi en Jésus-Christ et leur amour pour tous les saints. Ce sont les premiers traits. Autant quand un bébé naît, la première chose qu'on attend de lui, c'est qu'il hurle, autant qu'un enfant de Dieu, quand il commence sa vie chrétienne, c'est un désir pour la parole de Dieu, comme ça a été souligné, qui lui donne une foi croissante, non pas parce qu'il a un don particulier, mais parce qu'il prend du temps dans la parole de Dieu. Et puis, il commence avec un amour pour les autres. Et Paul rend grâce à Dieu pour cela. Il dit, c'est bien, c'est beau, gloire à Dieu. Cette combinaison de la foi en Dieu et de l'amour pour les autres est digne d'approbation. Là, il dit, là, je vous approuve. Plus tard, il y a encore une autre lettre qui est écrite à Éphèse, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 2. Et là, il dira à cette même église, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh, si vous lisez la même lettre, si vous lisez un peu avant, il dit, oui, je connais votre persévérance. Je sais que vous avez souffert pour moi, mais vous avez perdu votre premier amour. Vous savez, on peut être martyr pour la cause de Christ, on peut être persévérant, on peut être attaché à une doctrine, une confession de foi, on peut être séparé de tout ce qui est erreur, on peut être... Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, il dira, mais si j'ai le don de cette chose, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous savez, il dit, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas l'amour pour le prochain, s'il n'y a pas l'amour pour les autres, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas mon travail. Ça, c'est quelque chose que tu fais dans la chair. Et tu essaies de bien paraître devant les hommes, mais chez moi, non, ça ne va pas loin. Il ne parle pas, il ne dit pas, si vous aimez Dieu. Parce qu'il dit, non, la meilleure manière pour moi de voir que tu m'aimes, c'est quand tu aimes ton prochain. Et dans 1 Jean chapitre 4, je le lis, je sais que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais je le lis quand même, 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, carrément. Voilà, il dit, direct. Il dit, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, de Christ, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc il a dit, voilà, moi, ne me parlez pas de votre amour pour Dieu, moi, tout ce que je veux voir, c'est votre amour pour les frères. Et l'amour, comme il disait tout à l'heure, le frère, il disait que ça, c'est pas quelque chose qui est très naturel chez nous, parce que c'est incompatible avec l'égoïsme, c'est incompatible avec l'orgueil, parce que l'amour cherche le bien de l'autre, cherche l'intérêt de l'autre, cherche l'avantage de l'autre. Il ne cherche pas seulement le sien, mais il cherche aussi celui de l'autre. Et il dit, voilà, si vous avez la foi, si je vois chez vous cette foi croissante, et si je vois chez vous cet amour pour les frères, et pas certains frères, parce qu'on a toujours certains qu'on arrive à aimer plus facilement que d'autres. Non, il est pour les frères. C'est... Parce que des fois, il y en a qui disent, ils ne sont pas encore là. Ah oui, mais moi, souvenez-vous qu'il y avait un temps où vous n'étiez pas encore là aussi. Hein. Et puis après, vous ne savez pas par quoi il a traversé, et comment il a été éprouvé, et manipulé, bousculé dans la semaine. Ben, aimons-le d'autant plus. S'il est difficile à aimer, après tout, quand est-ce que Dieu a commencé à nous aimer ? Lorsque nous étions encore ennemis, il nous a aimés. Il dit combien plus maintenant que nous sommes ses enfants. Mais il a commencé à nous aimer lorsque nous étions ennemis. Et si nous étions ennemis, il y avait des raisons. « Au point que dans ce passage de la lettre à Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, il nous dit, écoute, je sais que tu as souffert pour moi, je sais que tu es persévérant, mais ton amour, il ne dit pas qu'il n'en a plus, il dit ce n'est pas ce que c'était. Et il dit, et si ça continue comme ça, je vais retirer le chandelier, je vais retirer ton témoignage, ce témoignage que tu as. Tu n'auras pas ce témoignage que tu m'appartiens, que tu es mon Église. À moins que tu reviennes. Vous savez, c'est vrai de l'Église, c'est vrai de chaque individu, parce que l'Église ne peut pas être meilleure que les gens qui la composent. Et vous savez qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu difficile, que ça donne une mauvaise réputation pour tous. Donc, il dit... Toute vie religieuse sans l'amour pour le prochain est désapprouvée par Christ. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si l'amour de Christ n'est pas là, et l'amour de Christ pour le prochain n'est pas là, Dieu n'est pas dans la chose, même si son nom est invoqué. Et vous savez, et nous savons que combien de choses, le nom de Dieu est invoqué sur beaucoup de choses. Jusqu'à la guerre, les croisades. Donc, l'homme est capable de beaucoup de choses, mais il dit, voilà, l'épreuve. Paul dit, j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour pour les saints. J'approuve, et donc je prie pour que vous alliez à l'étape suivante. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse la prière persévérante. Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Ces chrétiens d'Éphèse ont déjà entendu le message de l'Évangile, ils l'ont cru. Cette première manifestation de l'œuvre de l'Esprit est là, l'amour, le fruit de l'Esprit. Et il continue. Mais maintenant, il faut que ces chrétiens développent une appréciation de Christ, une plus grande appréciation de Christ. Et donc, ce passage que nous avons au verset 17, il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, 1, de révélation, 2, dans sa connaissance, 3, qu'il illumine les yeux de votre cœur, et tout cela pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Il dit, vous savez, ce n'est pas parce que vous avez la foi et parce que vous avez l'amour et que c'est en bonne voie que vous avez tout compris, que vous avez tout vu. Il dit, je voudrais et je prie pour vous, que cette connaissance, cette révélation, ce discernement, que vous puissiez voir, mais d'une vue spirituelle, vous pouvez voir quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Ah. Alors c'est quoi cette espérance qui s'attache à notre appel? C'est quoi? Bien, déjà le mot appel. Le mot appel, c'est un mot qu'on retrouve assez souvent. L'apôtre Paul en fait mention souvent. C'est utilisé un peu à tort et à travers de nos jours. Chacun dit, ouais, j'ai reçu l'appel, tu as l'appel, et puis on ne sait trop pas, c'est un peu quelque chose de mystérieux, de mystique, de n'importe quoi. Et je pense qu'aussi il y a de l'abus à ce niveau. On attribue à Dieu pas mal de choses que finalement ils sortent de notre cœur, de notre tête, et peut-être d'une mauvaise digestion. Mais c'est quoi l'appel? Eh bien, vous savez, le mot « église », celui que vous trouvez au verset 22, le mot « église », eh bien, le mot « appel » est dans « église ». Parce que « église », ça vient du grec « ekklesia ». « Appel », c'est « klesis ». L'église, c'est « ekklesia ». Donc, ceux qui sont appelés hors d'eux. Et c'est ça la définition de Dieu d'une église. C'est un rassemblement de personnes qui ont été appelés hors d'eux, hors du judaïsme, hors du paganisme, hors du monde, hors de l'athéisme, hors du péché, hors de ce que vous voulez. C'est des gens, peu importe d'où ils sortent, d'où ils sont sortis, ils ont été appelés pour former un nouveau corps. Ce qui importe chez Dieu, ce n'est pas notre origine, c'est ce qu'on va devenir. Et je vais le souligner encore plus tout à l'heure. Mais il dit, vous avez été appelés. Et nous avons été appelés par Dieu. Même si on ne le sait pas, même si on ne l'a pas compris, il dit, je veux que vous compreniez cela. Par exemple, Galates 1.15, il nous dit que les vrais chrétiens, les vrais croyants, ont été appelés par la grâce de Dieu. En apprenant la grâce de Dieu, en entendant parler de la grâce de Dieu, on se sentit attiré vers Dieu. Et je comprends. Pourquoi ? Parce que quand on commence à avoir une notion de ce qu'est la grâce de Dieu, on se dit, mais je n'ai pas trouvé ça chez parmi les hommes. Et parfois même, on est très dur avec soi-même, hein, on ne se fait même pas grâce. Il nous dit dans 2 Timothée 1.9, il nous dit que les enfants de Dieu ont reçu cette sainte vocation. C'est une autre traduction pour appel, cette sainte vocation, parce qu'elle est faite de Dieu. 1 Pierre 2.9, il nous dit que nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions dans les ténèbres et nous sommes sortis de là pour faire partie de la lumière, son admirable lumière. Et 1 Pierre 5.10 nous dit que nous sommes appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. C'est l'appel de Dieu, cette idée, c'est pas je me sens poussé vers quelque chose. Non, non. C'est j'ai été attiré vers ce que Dieu propose. C'est cette attraction qui s'est développée dans mon cœur vers lui. J'ai tourné vers lui les regards, j'ai levé vers lui les yeux, j'ai répondu à son appel. Et chacun de nous avons une autre expérience et une autre manière de l'exprimer. Mais chaque fois, c'est quelque chose qui... Et lorsque nous regardons en arrière, après avoir reçu Jésus-Christ et tout ça, on commence à regarder en arrière, mais on voit que quand même, on voit qu'il travaillait par différentes choses, il œuvrait pour m'amener jusqu'à cette réalisation que ce qu'il a fait sur la croix, c'est bien ce qu'il a pour nous. Il nous a appelés dans sa grâce de sortir des ténèbres et entrer dans sa lumière pour que nous jouissions de sa gloire éternelle. Il a dit... Je sais dans quel état vous étiez. Vous ne savez pas dans quel état vous étiez. Mais je sais dans quel état vous étiez. Vous n'avez connu que ça. Et donc, vous vous êtes habitué. Vous savez, l'être humain, il arrive à s'adapter. C'est extraordinaire où il arrive à s'adapter, où il arrive à vivre hein, dans des drôles de circonstances et dans des drôles des climats, des quartiers. C'est étonnant. Il arrive à s'adapter et puis... Et puis ceux qui naissent là-dedans ben, sont habitués à ça. Hein. On peut croire que ben, c'est notre sort. Et c'est un peu ce que certains vivent. Dans certains, ils se retrouvent dans une catégorie de personnes et ils ne peuvent pas sortir de là. Donc ils se débrouillent, ils vivent comme ils peuvent. C'est fou. Et nous, un peu, nous nous sommes habitués à ce monde de péché, un peu de mensonges, et puis des gens qui mentent, ils disent « oui, mais bon, c'est pas très grave, ça fait mal à personne », et puis il y a des tas de choses qu'on tolère. Et nous devenons insensibles à pas mal de choses qui déplaisent à Dieu, même nous chrétiens. Et puis il y a du vocabulaire que, c'est pas seulement qu'on s'habitue à l'entendre, mais parfois ça échappe de la bouche même. Ou de l'ancien vocabulaire, qui dans certaines circonstances, tout d'un coup, on dit « Ah, je ne savais pas qu'il était là encore. » Et oui, vous savez, mais Dieu sait dans quel état nous étions. Et il a dit, pour dire les choses simplement, « Vous étiez dans les ténèbres. » Les ténèbres où il n'y avait aucune lumière. Et je vous ai attirés. J'ai fait luire ma lampe sur vous, j'ai fait luire ma lumière sur vous, vous avez vu, vous avez levé les yeux et vous avez suivi et vous êtes arrivé jusque à la source de cette lumière. Vous savez, cette gloire éternelle est notre espérance. Pierre ajoute, et nous l'avons vu le jeudi soir, dans 1 Pierre chapitre 1, il nous parle de cette espérance vivante. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Non, c'est quelque chose de réel. Je le vis, je le crois, je marche tous les jours dans cette espérance. J'interprète tout en fonction de cette espérance. Je ne panique pas quand j'entends parler de certaines choses. Pourquoi ? Parce que je sais que Dieu a un certain mot. Celui qui est le premier est aussi le dernier. Et cela nous rassure. La bonne espérance de l'enfant de Dieu, eh bien, c'est le retour de Christ. Selon 1 Thessaloniciens 4, et versets 13 à 18, là où il nous dit qu'il reviendra pour nous prendre et nous emmènera avec lui. Pour ceux qui sont à lui. Parce que Dieu ne s'impose pas, ceux qui l'auront désiré, ceux qui se seront donnés à lui, disparaîtront. Ceux qui sont morts, ressusciteront. Et il nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, je vais lire ce verset-là, 1 Jean chapitre 3, verset 3, parce qu'on peut dire, oui, je crois au retour de Christ, mais ça... Vous savez, chez Dieu, tout a une expression. Et 1 Jean chapitre 3, en fait, je vais lire à partir du verset 1. 1 Jean 3, verset 1 à 3, nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Il a dit déjà, c'est pas mal. Et nous le sommes. Pas nous le serons, nous le sommes. Maintenant, parce que nous avons cru, nous sommes enfants de Dieu. Il dit, et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous le croyez ? Eh bien, il dit au verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur, se purifie. C'est-à-dire, pas il est purifié, non, se purifie. C'est-à-dire, ça continue, c'est quelque chose qui se fait constamment, on purifie. On passe par le feu, il y a des choses qui sont enlevées. Après, on repasse encore, puis après, le sang de Christ passe, il nettoie encore des choses, et puis la parole de Dieu passe, et c'est l'eau de la parole qui purifie. Et puis ensuite, il y a une épreuve, et l'épreuve nous fait ressortir des choses qu'on purifie, et on continue, et c'est notre marche avec le Seigneur. Et nous allons de progrès en progrès, l'expression de l'apôtre Paul. Celui qui a cessé de faire des progrès, il dit, moi je suis content, moi, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je suis baptisé, je suis dans une bonne petite église, notre pasteur il est sympa, moi ça me suffit. Et bien celui-là, il dort pendant le culte, avec ce pasteur sympa. Parce que moi j'ai l'impression que j'en ai parlé quand même, et que nous avons du chemin à faire. Il dit, celui qui a cette espérance, qui croit que Jésus-Christ revient, eh bien, ça purifie. Vous avez déjà demandé à quelqu'un, quand vous avez des invités qui vont venir, et vous savez qu'ils vont, et surtout si vous savez qu'ils vont aller partout dans la maison, alors là, ça motive pour nettoyer la maison. Ou bien on met des serrures sur les placards. Mais je crains que parfois il y a des chrétiens qui ont des cadavres dans les placards. Et alors ils ferment ça à clé. Ben oui, mais bon, il faut un beau placard, parce que les odeurs, ça se dégage éventuellement. Mais il dit, si vous avez cette espérance, vous savez que le Seigneur revient, eh bien cette pensée, cette espérance vous purifie. Et peu importe où va ce monde. Noé, qui n'avait aucun livre de la Bible, et il n'avait rien, il n'avait aucun bouquin à lire. Et bien à son époque, quand il était le seul qui marchait avec Dieu, il nous dit que Noé marchait avec Dieu et qu'il a été fidèle. Il était tout seul. Et il nous dit dans les derniers jours, il sera comme à l'époque de Noé. On n'est pas encore là. C'est-à-dire à son époque, c'était pire qu'aujourd'hui. Et il a été fidèle. C'est possible, et nous comprenons beaucoup de choses par rapport à lui. Lui, tout ce qu'il avait compris, c'est que Dieu est Dieu, et puis que Dieu, quand il dit quelque chose, Ça arrive. Et quand Dieu lui dit, il y aura un déluge, il a dit, bon, jamais vu un déluge avant, je ne sais pas comment ça se passe, à quoi ça ressemble. Je n'ai même pas vu d'inondation, jamais vu de la pluie même. Il dit, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais il a dit de faire un bateau, ben je fais un bateau. On n'a pas besoin de comprendre. C'est ça la beauté de la foi. Si vous êtes ces personnes qui se limitent à comprendre et à ce que vous pouvez comprendre, vous avez délimité votre monde. Vous avez été une petite caisse là, rien que pour vous, qui est à la taille de votre cerveau. Et c'est très petit, hein, pour la plupart d'entre nous. Il y en a qui ont des caisses un peu plus grandes, mais ça ne suffit pas pour mettre Dieu. Mais la foi me permet d'aller dans l'espace et d'aller là où les hommes ne peuvent plus aller et de croire à la parole de Dieu. Tu dis, Steve, mais tu... Oui, je sais. Si vous vous limitez au cerveau, mais le cœur, lui, il peut aller, il peut avoir la foi. Et Dieu, moi, j'ai confiance en Dieu. Et ce que j'ai pu vérifier de ce qu'il a promis, eh bien, c'est vérifié. Alors, je dis, moi, le reste doit être vrai. Parce que celui qui a l'habitude de dire la vérité, il dit vrai tout le temps, même si je ne peux pas le vérifier. Celui qui est vérité. Et il dit, cette espérance nous motive à la pureté dans la vie. Mais je continue ici. Non seulement est-ce que l'apôtre Paul prie pour que eux, eh bien que leurs yeux soient illuminés et que qu'ils aient la connaissance et qu'ils aient la révélation, un esprit de sagesse. Et puis, par rapport à ça, mais il continue à la deuxième partie du verset 18. Il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il dit, avec ce discernement, non seulement est-ce qu'on comprend quelle est l'espérance que nous avons, mais il dit, on commence à comprendre ce que Dieu réserve pour nous, les richesses et la puissance de Dieu qui est là et que jusque-là nous n'avons pas vu. Et remarquez qu'il dit l'héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? La première fois j'ai mal lu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? L'héritage n'est pas celui des saints ici. Dans le verset 11, il parlait de l'héritage des saints. Mais ici, l'héritage, c'est l'héritage de Dieu. Il dit la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est là où ça commence à nous dépasser un petit peu. Parce qu'il dit, mais c'est pour ça que je prie pour vous, parce que il dit, j'ai fait une œuvre en vous, et cette œuvre que j'ai faite en vous, eh ben, c'est quelque chose qui va m'apporter beaucoup de gloire. C'est quelque chose que je vais recevoir au travers de vous. Et c'est ça que nous avions vu, par exemple, au verset 6. Il dit, à la louange de la gloire de sa grâce. La louange est pour lui, mais parce qu'il nous a fait grâce, et nous ayant fait grâce, eh bien, il y a un sujet de gloire pour lui. Et donc, Dieu est glorifié à travers de nous. Et si vous réfléchissez un peu et vous pensez à différents passages, eh bien, vous allez comprendre cette idée que, finalement, l'œuvre de Dieu en nous porte gloire et nous portons gloire à Dieu. Et c'est tellement fascinant que même les anges vont être étonnés, vont dire « Waouh, ce que tu as fait avec ces hommes-là, et puis nous, on a une petite idée de ce qu'ils sont, ce que tu as pu faire là, ben c'est un nouveau chant de gloire. » C'est pour ça que dans le ciel, il y aura un nouveau chant qui n'a jamais été chanté avant. Lorsque les rachetés apparaîtront, les anges diront « On loue ta gloire depuis longtemps, mais là, c'est un nouveau sujet, ce que tu as pu faire au travers de ces gens-là. » Et ça, c'est son héritage. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que si Dieu nous regardait comme on est et d'où on vient, il n'y aurait pas beaucoup de gloire pour lui. Mais lorsque quand lui nous regarde, il ne regarde pas ce qu'on est, il regarde ce qu'il fera de nous. Vous savez, moi, je vais dans un marché aux puces, et puis je tourne, et puis je ne vois rien du tout. Ma femme, elle passe dans le même marché aux puces, et puis elle ramasse des trucs. Pourquoi ? Pas parce que ce qu'elle a vu, c'est quelque chose, mais elle sait ce que peut faire avec. Et après, quand vous avez un antiquaire, alors là, lui, il a des yeux. Et tout d'un coup, pour un rien du tout, il ne paye pas cher, mais lui, il sait ce qu'il est en train d'acheter. Et puis, il sait ce qu'il pourra en faire. Parce que lui, ce n'est pas ce qu'il voit, c'est ce qu'il pourra obtenir. Et lui, il voit la valeur. Et Dieu, quand il nous regarde, il dit, bon, je sais, même les hommes ne voient rien de cet extraordinaire chez lui. Mais moi, je vois quelqu'un que je peux utiliser. Vous savez, quand il a été appelé Pierre, pêcheur de poissons, et puis encore, c'est quelqu'un qui était un peu trop bavard pour être utile, et puis qui a toujours un doute, et qui a toujours des questions, et puis toujours il résiste, et tout ça, c'est pas le gars typique qu'on voudrait. Hein. Si vous allez embaucher quelqu'un qui va vous poser des questions, chaque fois que vous lui dites de faire quelque chose, vous lui dites, ah, ça suffit, hein, mais écoute, moi je préfère quelqu'un, parce que sinon on perd du temps à te répondre tout le temps. Mais Jésus, quand il l'a appelé, ce n'était pas pour ce qu'il était, c'est ce qu'il allait faire de lui. Il a dit, tu t'appelles Simon, moi je t'appellerai Céphas, il veut dire Pierre. Il dit, voilà le potentiel que je vois chez toi. Ça ne s'est pas vu tout de suite, ça a pris 3 ans et demi hein, pour un peu voir le potentiel chez lui. Vous rappelez peut-être l'histoire dans les Juges chapitre 6, il y avait Gédéon. Vous savez, l'ange apparaît à Gédéon, lui dit, vaillant héros. Il dit, vaillant héros. Il dit, lui, il est en train de se cacher dans un moulin d'olives, et il est en train de battre du blé. Là. C'est vraiment une cachette. Là. Il a de quoi tromper, c'est même pas la bonne saison pour être là. Tellement il est caché. Et l'ange lui dit, vaillant héros. Il dit, quoi, vaillant héros c'est à moi que tu causes, avec moi que tu causes. Il dit, mais non, mais lorsqu'on lit la suite, on voit que c'était un vaillant héros et que Gédéon apparaît dans Hébreux 11. Et vous savez, ce Dieu-là qui a vu Gédéon en tant que vaillant héros, ce Dieu qui a vu Simon en tant que Pierre et l'apôtre et celui qui s'est levé le premier dans les rues de Jérusalem et qui a défendu la cause de Christ, eh bien c'est le même Dieu qui nous regarde à nous. Il dit, il dit, non, t'en fais pas de ce que toi tu vois. C'est ce que je vois et si tu me laisses faire ce que je pourrais faire de toi. C'est ça qu'il dit, ça, parce que moi je suis en train d'investir en toi pour en faire quelque chose qui me portera gloire. Hein, c'est un peu le gars qui va chercher du vieux bois que la mère a renvoyé et puis il prend ça et puis après il le transforme un petit peu, fait une lampe et il met ça dans un. Et puis tout d'un coup, on a quelque chose, et les gens payent cher pour ça. Et oui, mais le bout de bois, c'est le même bout de bois. Mais c'est parce qu'il est passé par les mains de quelqu'un qui a su le valoriser, qu'il a pris de la valeur. Et c'est ça qu'il dit. Et c'est pour ça que Dieu parle de son héritage. Il dit, et si je prie pour que votre compréhension aille au point que vous pouvez voir par la foi, et vous avez confiance de ce que Dieu peut faire de votre vie. Tellement. Parfois, on est en train de rassembler nos petits jouets terrestres qu'on empêche Dieu de faire ce qu'il veut de nous. Deux Thessaloniciens, chapitre 1. Et je lis les versets 7 à 10. C'est le verset 10 qui m'intéresse, mais pour savoir de quoi il parle, je commence. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 1. J'ai un truc qui ne va pas là. ne sais pas si c'est un Thessalonicien, j'ai un petit problème. Je vais vous lire en tous les passages et puis je chercherai plus tard. Dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans le ciel avec les anges de sa puissance. Il nous dit au verset 7. Hein? C'est... Ah oui, c'est au milieu du verset 7. De Thessaloniciens 1 et au milieu du verset 7. Il dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Verset 10. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Il dit, je suis glorifié dans ses saints, Dieu est glorifié dans ses saints et il est admiré dans tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, on nous regardera et on verra Dieu. Et on dit gloire à Dieu. Et c'est là l'œuvre de Dieu et c'est ce qu'il veut faire, c'est son héritage. Il dit, mais vous savez, il faut aller au-delà de juste la foi et l'amour. Hein. Il faut, Dieu peut vous conduire et avoir cette connaissance pour que vous puissiez saisir ces vérités-là. Et comment est-ce que nous avons tout cela ? Ben, regardez verset 20, Éphésiens chapitre 1, verset 20, il dit, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais encore dans les siècles présents. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, la référence toujours pour la puissance de Dieu, c'était la traversée de la mer Rouge. Chaque fois qu'il voulait se souvenir de Dieu, quand il a vraiment manifesté sa puissance, c'est toujours une référence à la traversée de la mer Rouge. Et c'est extraordinaire, hein, on n'enlève rien de cela. Mais dans le Nouveau Testament, et pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament, eh bien notre référence, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande œuvre. Les gens veulent, je veux une guérison, il avait le cancer. On dit ça, c'est des cacahuètes par rapport à la résurrection de Christ. Et nous n'apprécions pas complètement la résurrection parce que nous ne comprenons pas toute la difficulté que Dieu a rencontrée pour ressusciter Christ. C'était un moment critique. Et tout ce que j'ai comme référence qui me permet d'apprécier un peu la difficulté, c'est l'angoisse que Jésus a ressentie dans le jardin de Gethsémané. Il a ressenti une angoisse terrible et cela l'a. Mais il a dit, je vais jusqu'au bout. Et Dieu a manifesté sa puissance et pour nous, c'est le fait que Jésus-Christ est ressuscité, que le Saint-Esprit l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Vous trouvez les trois références. C'est la Trinité qui était agissante pour obtenir la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ, vous avez cette référence, vous pensez à la résurrection de Christ, et puis tout devient possible pour vous. Et Jésus, non seulement il est ressuscité, mais il est monté dans la gloire, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, et il a reçu un nom, et Philippiens chapitre 2, verset 10, un nom au-dessus de tout nom, tout genou fléchira. Dans les cieux et sur la terre. Comme mon père, il disait toujours, je me souviens en tant que jeune, ça m'a toujours amusé, il disait, bon gré ou mal gré, ils vont l'adorer. Il vaut mieux commencer de bon gré maintenant. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, et c'est pas seulement vrai dans le présent, mais c'est vrai même pour les siècles à venir. Ce sera toujours vrai. Et quand il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, ben il l'est réellement. Il dit, et lorsque nous saisissons cela, et ces réalités nous saisissent, eh bien, vous savez, on a une autre vue globale de la vie. Et on interprète les choses autrement. Et les choses qui pourraient nous décourager, finalement, nous encouragent. Nous, au lieu de voir des cataclysmes et des catastrophes, nous voyons des signes de l'œuvre de Dieu. Ça change tout. Lorsque nous apprenons de guerre, de tremblements de terre et toutes ces choses, eh bien, nous disons, ah, la parole se confirme. Ça me rassure. C'est toute une autre vue lorsque je crois que Jésus-Christ, non seulement est mort pour mes péchés, mais il est ressuscité pour notre justification et nous sommes justifiés une fois pour toujours. Et après, il ajoute, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. Le mot chef, là, c'est la tête, c'est le chef, il est le cerveau de l'Église. Il n'y a pas d'autre. Et il n'a pas besoin de représentants terrestres. Il est suffisamment capable de le faire tout seul. Il n'a pas besoin de vicaire, il n'a pas besoin de prononcer des bulles, il n'a pas besoin de faire rien de tout. J'ai dit tout ce que j'ai à dire et je suis capable de faire tout ce que j'ai promis. Et nous n'avons pas un Christ qui soit mort, mais nous avons un Christ qui est vivant et qui agit. Et il est ressuscité et la grâce de Dieu rend possible toute cette richesse que nous avons en Jésus-Christ, les bénédictions spirituelles que nous avons vues la semaine dernière et toute cette réalité-là. Eh bien, tout cela a été rendu possible par la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, la grâce de Dieu rend tout cela disponible, mais la foi, c'est le moyen de l'obtenir. Tout ça peut être là, mais si je ne peux pas l'obtenir, hein, c'est comme quand vous passez devant la pâtisserie, vous voyez toutes ces pâtisseries, mais il y a une vitre. Désolé, j'aimerais bien, mais bon... On fait comme les chats devant une vitre. Mais vous savez, si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas cette foi en la parole de Dieu, ben c'est pareil. Je vous parle de ces choses-là et vous regardez, mais je ne peux pas la voir. Il dit, la grâce de Dieu l'a mis à notre disposition. La foi me permet de l'obtenir. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et tout le reste vient de la même manière. Non seulement le salut, mais toutes les bénédictions spirituelles et tout ce que Dieu a préparé pour nous, il l'offre par grâce et je l'obtiens par la foi. Mais il faut l'exercer, la foi. Il dit, mais je n'ai pas la foi, ce négro. Il commence à exercer la foi dans les choses que tu as. C'est petite foi, et bien commence à faire des petits pas. Et puis à force de faire des petits pas, finalement, vous savez, c'est comme ça que vous avez pris à marcher, hein. Et puis je tombais, cassé la figure 2-3 fois, mais la preuve, ça marche, vous êtes là. Et c'est pareil dans la marche spirituelle. Petite foi, mais exerce la petite foi. Et Jésus a dit, vous savez, avec la petite foi, on peut déplacer les montagnes. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15, c'est par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Dites-vous, vous admirez ce que Dieu a fait chez moi? Il me dit, ben c'est la grâce de Dieu. J'ai fait confiance et je l'ai laissé faire et voilà ce qu'il a fait. Il dit, j'étais violent, j'étais méchant, j'étais persécuteur de l'Église. J'ai fait tout ce qu'il y avait à ne pas faire et je croyais plaire à Dieu. Tellement j'avais les pensées tordues. J'étais religieux, le plus strict. Mais il dit, quand j'ai entendu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il m'a dit, va à Damas. J'ai été à Damas et les choses se sont enclenchées. J'ai fait ce que j'ai pu, j'étais aveugle, je ne pouvais pas, mais il dit, va à Damas. Il ne m'a pas demandé quelque chose d'impossible. J'ai été jusqu'à Damas et à partir de là, tout s'est mis en marche et l'apôtre Paul est devenu un homme que nous admirons. Vous savez, dans les évangiles, nous voyons la puissance de Dieu se manifester au travers de Christ. Dans les actes des apôtres, vous voyez la puissance de Dieu se manifester au travers des hommes comme nous. Cette puissance est là. Et ce qu'elle a fait chez les apôtres, ces disciples qui pour un rien avaient fui, hein, ceux qui avaient dit « Ouais, on va te défendre, on a deux épées, voilà, ça suffit !» Puis à peine qu'on vient mettre la main sur Jésus, on lui met les menottes, boum, ils sont tous partis. Mais Dieu a fait une œuvre. Et moi, je ne compte pas sur mes capacités. Il y a longtemps que j'aurais abandonné la foi. Mais j'ai confiance en ce que Dieu peut faire. Et il peut nous transformer. Et faire de nous quelque chose d'utile, même dans ce monde. Vous admirez la transformation chez Pierre. Pourquoi ? Eh bien, ça s'est passé après la résurrection. Parce que Christ est ressuscité. Le Saint-Esprit est descendu et Pierre n'était plus le même. Eh bien, la puissance de la résurrection de Christ, la mort de Christ obtient le pardon de mes péchés. La puissance de la résurrection de Christ me transforme pour que je puisse vivre à sa gloire. Maintenant, c'est à chacun de nous de nous situer par rapport à tout cela. Ça, c'est du vrai. Maintenant, où je suis de l'autre côté de la vitrine et j'aimerais la voir, ben, il y a une porte. Il suffit de faire le tour. Hein. Là, j'ai élevé des poules pendant un temps. C'est idiot, les poules. Certainement parce qu'ils ont un petit cerveau, je ne sais pas. Mais vous mettez un grillage de 2 mètres, vous mettez du grain derrière, vous mettez la poule ici, elle n'arrive pas. Elle est là devant. Au lieu de regarder et puis dire, ah ben, si je fais le tour, ça sera plus simple. Mais vous savez, il y a pas mal de gens aussi qui ils sont aussi bêtes avec Dieu. Et Dieu dit, il y a une porte à côté. Ça s'appelle Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Passe par cette porte, tu passes derrière la vitrine et tu as tout ce qui est là. Et tout ce que tu admires. Et puis il y en a d'autres qui sont passés par la porte, ils sont à l'intérieur, ils disent, ah, c'est beau d'être ici. Mais ils ne mangent rien. Ils n'en profitent pas. Ils sont là, rien que d'être dans une pâtisserie, c'est pas mal. Mais il dit, commence à jouir de ce que Dieu a pourvu. Passons quelques moments de silence et priez en fonction de ce que l'Esprit est en train de mettre sur votre cœur à l'instant.